Le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous. Dans l'actualité, nouvelle tentative d'assassinat sur Donald Trump, la deuxième en 2 mois. Un homme en possession d'une arme a pu être maîtrisé alors qu'il s'était approché du golfe du milliardaire en Floride. Le suspect est un homme de 58 ans, connu pour avoir un épais casier judiciaire et pour être très actif dans la cause ukrainienne. Thierry Breton quitte avec fracas la Commission européenne en pleine tractation sur la composition de la nouvelle équipe. Le commissaire au marché intérieur claque la porte de la Commission. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, à suivre dès le début du journal. L'Allemagne durcit sa politique migratoire. C'est aujourd'hui que Berlin commence à rétablir des contrôles de police à l'ensemble de ses frontières au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Pour commencer donc le départ de Thierry Breton de la Commission européenne, le Français annonce ce matin qu'il ne siégera pas dans la future Commission. Il estime ne plus être en mesure d'assurer son poste au marché intérieur. La composition de la future Commission n'a pas encore été présentée, mais depuis plusieurs mois, la mésentente entre Thierry Breton et la présidente Ursula von der Leyen était de plus en plus visible. Explication à Bruxelles de Pierre Benazé.
Thierry Breton envoie ce lundi une lettre circonstanciée à la présidente de la Commission. Il reproche à Ursula von der Leyen d'avoir négocié son départ dans son dos. Le commissaire français accuse la présidente de la Commission d'avoir demandé à Emmanuel Macron de le remplacer. En échange, la France pourrait prétendre à un portefeuille de poids au sein de la future Commission. « J'avais été officiellement désigné par le président de la République, écrit-il, mais vous lui avez demandé, je cite, de retirer mon nom pour des raisons personnelles. Et à aucun moment, vous n'en avez parlé avec moi. » Selon lui, c'est là une nouvelle preuve d'un mode de gouvernance discutable de la part d'Ursula von der Leyen. Il faut dire qu'il ne s'était pas privé de critiquer vertement la présidente de la Commission au mois de mars, au moment du lancement de la campagne pour désigner les candidats à la présidence de la Commission. C'était la première fois que leur bisbille répétée était ainsi étalée en public. Et ce lundi, Thierry Breton claque la porte avec fracas puisqu'il démissionne, je cite, « avec effet immédiat » et son entourage précise que ce départ n'est en aucun cas lié à une éventuelle entrée dans le futur gouvernement français. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
L'Allemagne donne un tour de vis à sa politique migratoire. C'est aujourd'hui que Berlin commence à rétablir pendant 6 mois des contrôles de police à l'ensemble de ses frontières au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont ainsi s'ajouter à ceux déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Berlin justifie sa décision en invoquant la protection de la sécurité intérieure contre les menaces du terrorisme islamiste et de la criminalité. Transfrontière. De son côté, la Commission européenne réagit en rappelant que de telles mesures doivent rester strictement exceptionnelles et proportionnées. Pour la deuxième fois en 2 mois, Donald Trump a donc échappé à une tentative d'assassinat présumée, cette fois chez lui en Floride, sur le parcours de son club de golf. Le FBI a annoncé l'arrestation d'un suspect qu'il aurait pris pour cible. Des tirs ont éclaté, puis l'homme a pris la fuite avant d'être maîtrisé par la police. Donald Trump, le candidat républicain, la présidentielle, est sain et sauf. On en sait maintenant plus sur le suspect, un homme très actif pour la cause ukrainienne. Correspondance à Miami de David Thompson.
Sur les réseaux sociaux, Ryan Rose, 58 ans, est très actif, particulièrement virulent contre Donald Trump. Ce père de famille originaire de Caroline du Nord défend activement la cause ukrainienne. « Je suis prêt à me battre et à mourir pour l'Ukraine », écrit-il sur Twitter quelques semaines après l'invasion russe en 2022. Il a d'ailleurs été interviewé à plusieurs reprises par les médias américains pour évoquer son activisme pro-ukrainien. Couvreur de profession, sans formation militaire, il s'est rendu en Ukraine et a tenté de recruter des volontaires pour combattre l'armée russe. Aux États-Unis, l'homme a de nombreux antécédents avec la police depuis les années 90. Possession de stupéfiants, conduite sans permis, problèmes fiscaux. En 2022, il se barricade même dans un commerce avec une arme automatique. La campagne Trump le qualifie de monstre maléfique. Paradoxalement, Ruth semble avoir soutenu Trump en 2016 avant de voter Biden en 2020. Il est actuellement interrogé par le FBI qui cherche évidemment à éclaircir son profil politique assez confus pour le moment. David Thompson, Miami RFI.
Et parmi les réactions, celles de Joe Biden et de Kamala Harris, le président et la vice-présidente américains se sont dit soulagés que leur adversaire soit sain et sauf. Il y a 2 ans naissait le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mahsa Amini, jeune kurde iranienne, était arrêtée pour port incorrect du voile islamique et transférée à l'hôpital. Sa mort était annoncée quelques jours après. L'indignation devant la mort de la jeune femme s'est transformée en révolte nationale face à la mainmise des autorités iraniennes sur la société. La violente répression pour tenter d'étouffer le soulèvement a notamment abouti à un recours accru à la peine de mort. Cette année, lors de sa campagne, le nouveau président dit réformateur, Massoud Pezeshkian, s'est très souvent adressé au mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais après son élection, les exécutions ont repris. Écoutez sur ce point Mahmoud Amiri Mogadam, il dirige l'ONG Iran Human Rights.
This year is a bit special because there were two.
Il est assez commun lors de rendez-vous électoraux qu'ils suspendent les exécutions quelques semaines avant les élections pour donner de faux espoirs aux gens. Cette fois-ci, les élections se sont terminées en juillet. Les exécutions ont repris quelques semaines plus tard. Seulement sur le mois d'août, au moins 100 personnes ont été exécutées et ça continue. Le régime dépend de la peur qu'il propage. Et maintenant, avec l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini et du début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, il menace les familles de ceux qui ont perdu des proches lors des manifestations, particulièrement dans les régions kurdes. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher tout rassemblement durant la semaine à venir. Ils vont peut-être y arriver, mais le mouvement continue.
Propos recueillis par Oriane Verdier. Direction maintenant le Burkina Faso où des proches du Djibril Bassolé ont été enlevés. Il s'agit de l'ancien aide de camp et du fils aîné de l'ex-ministre des Affaires étrangères, sous Blaise Compaoré. Des proches affirment qu'ils ont été enlevés ces derniers jours et conduits vers une destination inconnue. Les domiciles des enfants du général Bassolé ont été visités et fouillés. Des téléphones et ordinateurs saisis. On a aussi appris qu'hier, des hommes armés attendaient à la clinique où se trouve la fille de l'ancien ministre. Djibril Bassolé, aujourd'hui en exil, dénonce ses méthodes et le fait de s'en prendre à sa famille.
C'est contre ma personne, parce que mes enfants n'ont jamais fait de la politique, ils ne sont pas impliqués dans les affaires politiques. S'ils sont aujourd'hui persécutés, c'est pour moi, c'est pour m'atteindre, c'est pour me déstabiliser, c'est pour me faire mal. On vit des moments terribles avec mon épouse, de savoir nos enfants mis en danger de mort comme ça, simplement parce que moi, j'ai voulu m'exprimer sur la situation de sécurité de mon pays et de la sous-région. Ce sont des méthodes vraiment que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Mais la liste de nos enfants ne fait que rejoindre la longue liste des centaines de Burkinabés aujourd'hui qui sont victimes d'exactions, de répressions, et qui vivent un enfer aujourd'hui.
Djibril Bassolé, joint par Magali Lagrange. En Argentine, le président Javier Milei a transformé la présentation du budget en véritable show politico-médiatique. Plutôt que d'en laisser le soin à son ministre de l'économie, comme le veut la tradition, le président ultralibéral a choisi de venir en personne présenter au Parlement le budget 2025. Une mise en scène inédite, retransmise en direct à 1 heure de grande écoute, afin de vanter son plan d'austérité. Théo Conscience.
Déficit zéro, c'est la règle d'or que s'est fixé Javier Milei pour le budget 2025 qu'il a présenté en grande pompe au Congrès hier.
La dette est due au déficit, l'émission monétaire est due au déficit, l'inflation est due au financement du déficit par l'émission, par conséquent la pauvreté est due au déficit.
Pour mettre fin à ce qu'il présente comme la cause de tous les maux argentins, le président ultralibéral a réduit les dépenses de l'État de 30% depuis son arrivée au pouvoir au mois de décembre.
Nous n'exagérons pas quand nous disons que nous avons réalisé l'ajustement budgétaire le plus important de l'histoire de l'humanité.
Un tour de vis budgétaire drastique réalisé au prix de coupes dans les dépenses liées aux retraites ou à l'éducation, de la paralysie des investissements d'infrastructures et de la suspension de l'aide alimentaire ou du remboursement des médicaments contre le cancer.
Nous avons pris l'habitude de concevoir l'État comme une nourrice qui devrait s'occuper de tout, depuis l'alimentation jusqu'au divertissement des citoyens.
En guise de conclusion, Javier Milei lance un avertissement aux députés et aux sénateurs qui devront approuver ou non son projet de budget pour l'année 2025.
Ce seront les citoyens qui placeront sur l'avenue des justes ou dans la rue des rats misérables qui ont misé contre leur pays et ses habitants.
Théo Conscience, Buenos Aires. RFI.
Un mot enfin de la grande soirée dédiée aux productions du petit écran. La cérémonie des Emmy Awards, retransmise hier soir à Los Angeles, avec en vedette la série Shogun, qui s'est vue remettre 18 récompenses, dont celle de la meilleure série dramatique. Voilà, et maintenant un programme sportif dans Priorité Santé avec vous, Caroline Paré. Bonjour.
Oui, merci beaucoup, Gilles Moreau. Toutes ces infos, on les retrouve sur notre site internet, rfi.fr.